RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, les dirigeants de l'Union européenne se réunissent ce mercredi pour un sommet consacré encore une fois aux conditions de sortie du Royaume-Uni. Une nouvelle prolongation n'est pas exclue par Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union, même si l'ombre d'une sortie sans accord le 12 avril plane toujours. Face aux incertitudes de l'autre côté de la Manche, on se prépare plus ou moins aux répercussions. Depuis quelques mois, l'administration française multiplie les opérations de sensibilisation et presse les entreprises de se préparer au scénario du pire sans savoir vraiment si elles sont prêtes ou non. Brexit, comment l'économie française s'organise? Grand reportage signé Pauline Laize.
h 15, un ferry accoste dans le port normand de Caen-Ouistreham. Les poids lourds descendent et sortent du port quelques minutes plus tard après un simple contrôle d'identité. Bientôt, ces habitudes pourraient être chamboulées.
Je crois que ce sera beaucoup de files d'attente. On verra. On arrêtera d'aller en Angleterre parce que si c'est pour perdre du temps et de l'argent...
Vous pensez que ça va bien se passer?
Ouais, je pense.
Vous êtes préparé? On vous a un peu dit comment ça allait se passer?
Du tout. Bon. Donc on verra bien.
Pourtant, cette scène se déroule le 29 mars, le jour où aurait dû se concrétiser le Brexit, et le port s'est préparé. Visite guidée avec Antoine de Gouville, directeur des équipements portuaires à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen.
La douane a conçu une frontière intelligente qui permet à la compagnie maritime de pouvoir disposer le statut douanier une heure avant l'arrivée des camions. Soit le statut est valable, ça sera le circuit vert, soit il faudra que le camion s'arrête. S'il est en statut orange, on a dédié des zones de stockage, donc de part et d'autre du bus. Là.
À Ouistreham, 10 agents des douanes ont été recrutés pour assumer ce surcroît de travail. Au total, en France, l'État a engagé 700 recrues supplémentaires. Serge Duira, directeur régional des douanes, rappelle l'objectif de la fluidité.
Le Brexit, ce n'est pas le blocus, c'est-à-dire que tous les poids lourds ne feront pas l'objet d'un contrôle. La grande majorité quitteront le port de manière simple, hein, enfin au même titre qu'aujourd'hui. Et après, tout va dépendre de la nature du contrôle, si c'est d'abord un contrôle douanier. Mais moi, je veux insister sur un fait, c'est vrai qu'une des grandes incertitudes, c'est qu'un poids lourd arrive sans être prêt. Il n'a pas de document de transit, il n'a pas de déclaration, enfin il n'a rien fait. Il va falloir qu'il se mette en rapport avec un représentant douane pour effectuer ses démarches. Mais ça ne signifie pas qu'il va rester bloqué un jour, deux jours, trois jours. Dès que les formalités vont être faites, on va rentrer dans le circuit que j'évoquais, circuit vert, circuit orange, en fonction de la marchandise.
Certains camions en statut orange pourront même passer sans attendre, mais devront faire une halte à 3 km de là.
À la dernière minute. Donc voilà, donc là on arrive au CIVEP.
Le CIVEP, c'est le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire. Ces locaux, a priori provisoires, subissent quelques transformations, explique Caroline Guillaume, à la tête de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Il y avait une entreprise privée avant dans ce bâtiment avec du stockage de marchandises. Nous, il va nous permettre d'accueillir la marchandise sur les quais avec les camions, ici, pour tout ce qui est denrées animales et végétales et des animaux vivants de l'autre côté. Et puis la deuxième chose indispensable, ça a été de recruter des moyens humains supplémentaires et surtout de les former, puisque ce sont des gens qui nous ont rejoints pour opérer ces contrôles dans le cadre de la mise en place du Brexit.
Mais que recevront ces agents? Pas de vaches ou de cochons vivants, c'est sûr. Faute d'espace aménagé, ils ne seront pas accueillis. Pour le reste, il n'y avait jusqu'à présent pas de contrôle. Les services sont donc basés sur des estimations.
On est incapable de dimensionner correctement la volumétrie. On a fait des estimations, on peut avoir des surprises. Par ailleurs, on ne connaît pas les flux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un nombre de camions important à une arrivée et pas du tout de camions à l'autre arrivée.
De l'approximation pour l'instant. Or, la continuité des trafics à Ouistreham, troisième port transmanche côté français, représente, selon le directeur de port de Normandie, un enjeu économique majeur.
Ceci est une annonce Brittany Ferries. Tous les passagers motorisés voyageant à destination de Portsmouth.
L'enjeu est primordial pour Brittany Ferries. Un rallongement des temps d'escale menacerait son modèle économique. Et avant même qu'il devienne effectif, le Brexit n'a pas été une bonne nouvelle pour la compagnie. Jean-Marc Rouet, son président, a fait les comptes.
On est déjà dans le Brexit depuis le 26 juin 2016, puisque je collecte 80% de mon chiffre d'affaires en livres sterling et je convertis 200 millions de livres vers l'euro tous les ans. Donc quand la livre dévalue de 15%, ben, vous comprenez, j'ai perdu 15% de mon chiffre d'affaires. bancaire sur ces 80% de livres-là. Et je suis pas certain qu'avec un Brexit dur, la livre remonte tout de suite. Je suis même plutôt certain du contraire. Et deuxièmement, les réservations sur notamment nos passagers Holidays Family motorisés, eh ben on a un déclin de réservation pour 2019. Je pense que pour 2020, on aura également ce déclin à constater.
Néanmoins, il essaie de tirer parti des remous du Brexit.
Brittany Ferries et DFDS ont signé donc un contrat permettant à l'État britannique donc d'avoir des capacités complémentaires pour pallier au risque de congestion possible. Ce qui fait que, très concrètement, aujourd'hui, les Anglais ont financé une entreprise française, Brittany Ferries, une business unit française, DFDS, pour pouvoir avoir des capacités de transport renforcées.
Un des ports à en profiter, c'est celui du Havre.
Concrètement, ça veut dire une rotation supplémentaire par jour, 3 jours par semaine. Et donc, il va falloir qu'on se mette dans une configuration où il faut pouvoir être capable de traiter des entrées et sorties en simultané. Ça a nécessité de travaux assez importants.
À l'occasion de la semaine de l'innovation du transport et de la logistique Porte de Versailles à Paris, Baptiste Morand, directeur général adjoint du port, présente les aménagements.
On a investi 1,5 million dans le changement de design du terminal ferry pour pouvoir accueillir plus de poids lourds et aussi plus de files d'attente, le cas échéant, en fonction des procédures douanières qui seront mises en place.
Et est-ce que justement le Brexit, c'est aussi pour vous une opportunité ?
Ça peut l'être, effectivement. Par exemple, les flux de la République d'Irlande qui restera dans l'Union européenne, aujourd'hui passent essentiellement par le Royaume-Uni pour pouvoir rejoindre le continent. Avec un Brexit, les droits de douane au passage frontière vont être dissuasifs pour un certain nombre de catégories de marchandises. Et donc en Irlande, les exportateurs réfléchissent de plus en plus à basculer des flux poids lourds vers des modes maritimes. Aujourd'hui, les flux irlandais vont essentiellement à Zeebrugge et Rotterdam. Le Havre est très bien positionné pour pouvoir attirer de nouveaux flux.
Alors le port du Havre peut-il capter les flux des Hauts-de-France ? À quelques stands de là, François Soulet de Brugière, membre du conseil de surveillance du port de Dunkerque, exprime le fond de sa pensée.
C'est pas complètement impossible. D'abord, ils nous savonnent gentiment la planche en prenant un air éploré pour dire que oh là là, ça va être si dur à Dunkerque et à Calais qu'il faut passer par le Havre. Bon, très bien, on leur montrera qu'on sait faire quand même.
Mais il n'est pas complètement serein.
Le problème sur le Brexit, c'est que plus de 60% des entreprises qui travaillent avec la Grande-Bretagne n'ont jamais travaillé à l'export ou à l'import. Et ils risquent de se retrouver à la frontière sans avoir préparé les documents et la marchandise comme il faut. Or, tout ce qui fait notre valeur ajoutée sur ce passage court entre la Grande-Bretagne et la France, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de délai. Si demain, les opérations de douane nécessitent des délais, on va perdre une partie de notre avantage compétitif par rapport à des liaisons plus longues. Pour nous, il faut que les choses soient extrêmement fluides. Il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas le devenir. Le problème, c'est de s'assurer qu'elles seront fluides dès le début.
Est-ce que vous êtes en lien aussi avec vos collègues de Douvres ? Est-ce que eux, vous avez le sentiment qu'ils sont prêts ?
On a le sentiment qu'ils ne sont pas prêts. Mais Douvres, c'est adossé à une falaise. Donc, c'est des surfaces qui sont très contraintes. Ils n'ont pas la capacité d'augmenter le buffer de stockage de poids lourd, même de 20 ou 30%. Donc, si eux, ils ont des problèmes, ça risque à se répercuter de notre côté à nous.
Jean-Marc Puisseseau, PDG du port de Boulogne-Calais, affiche, lui, une grande confiance.
Il y a un mouvement de zèle qui s'est produit avec les douaniers, qui est une déclaration mensongère de dire que, en faisant ce qu'ils font, la grève du zèle, c'est une préfiguration de ce que sera le Brexit. C'est faux. À l'export, il n'y aura aucun problème. Sauf si, bien sûr, encore une fois, vous savez, la chaîne logistique, c'est plusieurs maillons. S'il y a un maillon qui pète, ça marche plus, mais aujourd'hui aussi.
Et là, du coup, vous avez communiqué avec tous les transporteurs routiers pour qu'ils soient prêts aussi.
On a envoyé depuis un mois à toutes les associations de chauffeurs routiers en Europe des mailings. Nous avons aussi envoyé à chaque ambassade de France dans les 27 pays de l'Europe des documents pour l'indiquer ce qu'il fallait faire pour arriver au port de Calais. Et notre grand slogan, c'est « Documents douaniers, passage libre ». Nous avons reçu quelques ambassades et quelques délégations de chauffeurs routiers de pays étrangers tels que la Pologne.
Mais tout ne repose pas sur les épaules des transporteurs. C'est ce que rappelle Thierry Grumiaux de la Fédération nationale des transports routiers.
Je rappelle quand même que les formalités douanières doivent être effectuées par un représentant en douane enregistré. Le transporteur, par contre, lui, il aura à s'assurer qu'un certain nombre de documents lui seront transmis au moment du chargement ou plus tard, de manière à ce qu'il puisse passer la frontière.
Quels sont les risques pour le transport routier liés au Brexit ?
Le risque principal, déjà, c'est que le véhicule soit bloqué. Le coût d'attente, on l'a estimé à 1 euro de la minute. Et donc, il faut absolument essayer, effectivement, de garantir une certaine fluidité des échanges, même si, c'est clair, on n'aura pas la même fluidité qu'on a aujourd'hui, parce qu'on aura des formalités de toute façon. En fait, le problème, c'est pas tant que les transporteurs français soient prêts, c'est plutôt que les exportateurs soient prêts. Et ça, par contre, j'ai de gros doutes. J'ai encore des exemples où on a des gens qui pensent que, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un accord ou s'il n'y a pas d'accord, qu'il y aura une période de transition. Or, c'est faux. Les représentants non enregistrés, oui, ils le sont, mais c'est pas tant la question d'être prêt ou pas, c'est la question de savoir si on a le personnel suffisant pour pouvoir gérer ces flux supplémentaires. Et là, par contre, je suis pas sûr que ce soit le cas. Côté français, en tout cas, côté britannique, j'en suis sûr. Ils ont un manque de personnel à ce niveau-là qui est absolument phénoménal. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement britannique a prévu que les mesures de déclaration d'entrée sommaire sur le territoire britannique n'entreront en vigueur que dans un délai de 6 mois.
Direction le port de Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche de France. Les mareyeurs, ceux qui travaillent et commercialisent les produits de la mer, s'inquiètent eux aussi des formalités douanières.
Et donc la marchandise, elle descend là et elle met 15 heures pour venir. Et donc le poisson qui part cet après-midi là, du nord de l'Écosse, il sera ici demain matin chez nous.
Sur une carte, Marc Salmon, directeur de Whiteling Seafood France, décrit le parcours effectué par le poisson et appréhende la nouveauté.
Où ça peut nous être défavorable, c'est si demain nos contrôles sont plus rigoureux que dans d'autres pays, parce que le produit prendra le chemin le plus facile. À côté de ça, on sait que le marché n'aime pas le vide et que de toute façon, les produits qui sont consommés arriveront jusqu'au consommateur. L'intérêt, c'est qu'il arrive en passant par Boulogne et pas par ailleurs. Les problèmes administratifs, remplir des papiers, faire des déclarations, c'est pas vraiment un problème puisque tout le monde sera sur les mêmes bases et sur les mêmes règles. Les problèmes de taxes, c'est un peu la même chose. S'il y a des taxes, elles seront les mêmes pour tout le monde, donc tout le monde sera sur un pied d'égalité. Donc ce qui nous pose souci, nous, aujourd'hui, c'est que notre logistique est très, très tendue, qu'on a très peu de temps. Et ça veut dire que si demain, on se retrouve ici là, à faire des contrôles sanitaires, eh bien, il faudra un minimum de temps pour les faire. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas le temps que ça prendra. Est-ce que ça veut dire que, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, on sera obligé de garder cette marchandise jusqu'à demain pour l'expédier que demain, parce qu'on n'aura plus le temps de l'expédier aujourd'hui?
Et ça, vous craignez que ce ne soient pas les mêmes contrôles faits en France, en Belgique, aux Pays-Bas?
Pour l'instant, on ne sait pas, parce que on ne l'a pas vécu. Mais par expérience, on sait qu'on est souvent plus exigeant sur certaines règles que d'autres pays.
Difficile de contourner les risques dans le flou qui a régné autour du Brexit. Aymeric Chan, secrétaire général du syndicat des mareyeurs de Boulogne-sur-Mer, a pourtant identifié une piste.
Ce qu'elles peuvent faire concernant les entreprises qui travaillent beaucoup avec les produits britanniques, c'est essayer de partir sur une optimisation de la taille des lots, donc c'est des relations avec leurs fournisseurs, parce que bien évidemment la complexité du contrôle douanier et sanitaire s'accentue inversement à la taille du lot. Si vous avez un camion avec un seul lot, bon, on est en droit d'espérer que tout ça se passera à peu près correctement. Si vous avez 10, 20, 30, 40 lots, ben les procédures de contrôle et de dédouanement vont être d'autant plus longues.
Et contourner la difficulté en s'approvisionnant ailleurs n'est pas une option.
On est quand même globalement sur un marché de pénurie. S'il y aura sur le domaine du fret, il y a une concurrence pour l'accès à la matière première. Demain, si on réduit les quantités de matière première disponibles pour le marché européen, du fait du Brexit, forcément, tous nos collègues et néanmoins concurrents vont être également à la recherche ou à l'achat de produits complémentaires. Donc bien évidemment, les solutions de repli sur des pays voisins en termes de sourcing, c'est quelque chose qui n'est absolument pas envisageable puisque eux seront également dans la même situation.
Au total, le Brexit menace 30% de l'activité des mareyeurs locaux et pas seulement en raison des importations ou des transits de marchandises via le Royaume-Uni. En cas de sortie sans accord, les pêcheurs français pourraient voir leur zone d'activité restreinte. Au milieu de la nuit, Tony Sergent pèse ses caisses de coquilles Saint-Jacques, le fruit de 36 heures de pêche dans les eaux anglaises.
Si vraiment les Anglais reprennent leur mer, nous, on va devoir s'adapter. Pour la coquille Saint-Jacques, nous, on y est à peu près 50% du temps chez eux. Donc, il faudra trouver d'autres solutions.
Ce serait pas possible de pêcher la même chose tout en France, par exemple?
Oui, mais quelquefois, on va chez eux pour chercher l'abri du vent. Après, il y a une période de l'année, on trouve un peu de poisson avec la coquille Saint-Jacques, tandis que chez nous, il n'y en a pas. C'est toujours un peu plus meilleur chez eux.
Au niveau économique, ce serait supportable pour vous?
Il faut peut-être trouver une autre technique de pêche, ou je sais pas, là on est habitué comme ça, il faut changer les habitudes, mais bon, ça fait drôle, ça fait drôle. Bon, après, les coquillards anglais ne viendront plus chez nous. On a une bonne ressource aussi chez nous qui sera préservée. Donc peut-être que pour nous, les coquillards, il n'y aura peut-être pas trop d'incidence. C'est pour les chalutiers plutôt que... Après, nous, on fait pas que la coquille. Hein. Après la coquille, on part au chalut et puis on fait tout le temps chez eux aussi.
Les pêcheurs au chalut, justement, on les retrouve un peu plus loin sur le quai. Nicolas Margolet, patron du Nicolas Jérémy, ressent son poisson en vue de la criée.
Voilà, on a du merlan, on a du maquereau, un peu d'encorné, un peu de grondin perlon qui vient à 80% des eaux britanniques. C'est pas comme ça chaque semaine, mais les eaux britanniques, c'est 60 à 70% de notre chiffre d'affaires. Si on n'a plus accès aux eaux britanniques, je ne sais pas comment on va faire. Ça ne va pas durer longtemps. Où on va se retrouver dans les zones de pêche françaises avec les Néerlandais, les Belges, les Français. Ça va poser des problèmes de cohabitation et des problèmes de ressources, tout simplement.
Au déchargement du bateau, après plusieurs jours en mer, Jack Valin, marin à bord de l'Arc-en-Ciel, n'est pas beaucoup plus optimiste.
On verra bien comment ça va se passer. Après, on croise les doigts, on espère que ça va le faire. Après, si jamais ça le fait pas, je pense que... Il va y avoir des manifestations, on sait très bien comment ça se passe chez les marins, on a le sang assez chaud, alors on verra bien quoi. Si vraiment on peut plus aller pêcher dans les zones anglaises, moi je le sens plus trop. Enfin je pense que ça va être la fin du métier pour nous, j'espère pas mais bon.
Vous envisagez pas d'aller plus au sud ou plus au nord
C'est toujours pareil, plus tu fais de la route et plus tu du gasoil, et quand tu vois le prix du gasoil et tout c'est chaud, donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi, on verra bien. Ouais.
Le jour venu, Bruno Margolet, retraité actif copropriétaire du Nicolas Jérémy et vice-président du Comité national des pêches, aide ses fils à réparer un chalut.
C'est une question de vie ou de mort. L'interdiction d'aller dans les eaux britanniques, ça nous réduit de plus de 50% nos zones de pêche ancestrales. Parce que moi, je peux vous dire que depuis des décennies, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils allaient toujours pêcher les Britanniques bien avant que l'Europe soit mise en place.
Parce que là, il n'y a pas de solution de repli sur les zones françaises ou belges.
C'est 500 navires environ de toute nationalité, on va dire hollandais, belges et irlandais, qui pêchent dans la Manche. C'est à peu près un peu plus de 500 navires. Hein. Je ne parle pas des Anglais parce qu'il y a très peu d'Anglais dans le sud de l'Angleterre. Donc ça veut dire que ces 500 navires-là vont tous venir dans la zone française. Ça va être un cocktail explosif, problème de cohabitation, des métiers différents. Et puis, la moindre anicroche, ça va être une bataille navale, quoi, tout simplement.
Vous étiez à la rencontre avec le ministre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a rassuré?
Oui, il nous a rassuré du côté que l'État ferait tout pour éviter vraiment les incidents et puis qui serait derrière pour nous accompagner. Parce que nous, on n'a pas de plan B. Hein. Moi, mes gars qui sont là, je peux pas dire demain, je vais les licencier. Puis, hors de question, madame. On a fait des transformations. On a encore 1 million d'encours de prêts. Et je fais quoi?
Des plans B, certains secteurs en ont trouvé. Le laboratoire pharmaceutique Ipsen, par exemple, était particulièrement exposé à une sortie sans accord, explique Anne-Pio Dabzac, directrice des risques du groupe français.
Le groupe Ipsen est très présent en Angleterre et nous avons notamment une usine qui fabrique l'un de nos produits majeurs. Dès l'été 2016, nous avons travaillé au scénario possible et le scénario rouge était celui d'un hard Brexit. À l'époque, nous considérions ce scénario comme très peu probable. Mais dans la mesure où notre mission était de tout faire pour éviter une rupture d'approvisionnement du produit aux patients, la direction générale nous a demandé de travailler sur ce scénario de Brexit dur. Pour mettre sur le marché un médicament, il faut d'une part en avoir l'autorisation et d'autre part réaliser ce qu'on appelle des tests de libération, c'est-à-dire des tests de conformité des différents lots de ce produit. En Europe, ces opérations peuvent être réalisées par un pays pour l'entièreté des autres pays. Dans le cas d'Ipsen, c'est l'Angleterre qui avait ses autorisations mises sur le marché pour tous les produits de l'Union, d'une part, et d'autre part, c'est l'Angleterre qui réalisait ses tests de libération de l'eau pour tous les produits de l'Union. Donc, il fallait mettre en place tous les transferts administratifs nécessaires. Or, ces transferts d'activité sont extrêmement longs, complexes, coûteux.
Le laboratoire a aussi fait délivrer des permis de travail pour ses collaborateurs européens qui travaillent au Royaume-Uni et pour leurs conjoints. Brexit, comment l'économie française s'organise? Un grand reportage de Pauline Glaise, réalisation Pierre Chaffanjon.